Demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. À tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de mixité. C'est un sujet dont on parle beaucoup et qui peut s'appliquer à différents postes de notre vie. Alors, on va commencer par l'école, par l'éducation. Alors, c'est la mixité à l'école, ça n'a pas toujours été. Moi, par exemple, on était mixte à l'école maternelle. On était garçons et filles séparés à l'école élémentaire. Et puis, c'était une époque où il y avait donc ce qui est l'équivalent du collège qui était mixte dans certaines villes. Et puis, les lycées étaient lycées de filles, lycées des garçons. Évidemment, la faculté était en mixité. Alors, là aussi, la mixité dans les disciplines, c'est quelque chose qui n'était pas acquis. Il y avait des disciplines qui étaient, on peut dire, réservées aux femmes, d'autres qui étaient réservées aux hommes, pas d'une manière, on peut dire, légale, mais dans les pratiques. Alors aujourd'hui, on voit non seulement, et c'est heureux, la mixité, c'est-à-dire un mélange, et puis aussi des inversions qui n'avaient pas été prévues. Alors justement, dans mon métier d'architecte, les écoles d'architecture étaient réservées aux hommes. Alors là, il y a certainement des origines historiques d'un métier qui était réservé aux hommes parce que c'était un métier de chantier qui faisait que, ne serait-ce que les habits des femmes n'étaient pas propices à des chantiers qui étaient certainement à l'époque beaucoup plus boueux et dangereux que ceux d'aujourd'hui. Mais le phénomène de la mixité non seulement est arrivé, mais nous avons actuellement une inversion où les écoles d'architecture, même si la profession ne ressent pas ça dans son entier, on a une profession qui se féminise. Et les écoles d'architecture, donc quand j'ai été élève, comme je vous disais, c'était exclusivement ou quasiment exclusivement masculin. Et aujourd'hui, j'ai été enseignant et c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que nous avons un plus grand nombre de femmes, mais d'une manière très très importante, c'est assez étrange, je vous dirais. Alors, c'est un phénomène qui se passe dans certains métiers. Par exemple, la magistrature est devenue d'un métier exclusivement masculin à un métier aussi où ce sont les juges femmes qui sont plus que la majorité. Donc, tout cela est relativement anecdotique, me semble-t-il. On ne va pas en tirer des grandes leçons d'économie. Et on peut simplement voir aussi où s'applique cette mixité dans le travail, par exemple. Mais pour revenir aussi, je reviens en arrière, à l'éducation, il y a aussi une mixité qui est un phénomène nouveau avec aussi une mixité, par exemple, avec des handicapés, ce qui est une bonne chose. Donc, le problème des accès qui a été bien amélioré et qui fait qu'il n'y a pas, de ce côté-là, une barrière matérielle pour qu'il y ait donc cette inclusion des personnes en situation de handicap. Alors j'en parlerai dans la deuxième partie de mon exposé sur le logement, mais pour revenir au travail, là aussi, c'est un phénomène donc qui se produit d'une mixité bien plus grande, mais la France n'a pas, sur un plan, on peut dire, racial, eu besoin de faire ce qu'ont fait les États-Unis. C'est une discrimination positive, c'est-à-dire d'avoir des quotas ethniques, et surtout, c'était dans le cas des États-Unis, le phénomène de la ségrégation raciale avec les origines de l'esclavage qui posait un véritable problème. Donc la mixité a été, on peut dire, une sorte de rattrapage historique par rapport à des périodes de grande injustice, et c'est une situation que l'on ne connaît pas. Mais nous avons aujourd'hui des flux migratoires importants, et ce problème de la mixité ne se pose pas d'une manière, on peut dire, sur un plan du travail dans les entreprises, où il n'y a pas besoin de faire des quotas, et je ne pense pas que notre pays souffre de ce type de discrimination. Cependant, il y a un problème qui est le problème du logement. Alors le problème du logement et la mixité, alors là n'est plus une question évidemment, de sexe, de femmes et d'hommes. Le problème de la mixité sociale, c'est un problème de revenus. Alors, ce problème de revenus va être lié aussi avec les phénomènes migratoires que nous avons, va être lié aussi à des phénomènes, on ne peut pas dire de race, mais on peut dire d'ethnie, on peut dire de culture, et on va parler du multiculturalisme. Donc la situation de la mixité, qui est présentée comme un bienfait, avec des côtés positifs et une apparence morale, va être au cœur des politiques du logement. Donc il faut rappeler, s'il n'y a pas eu de la discrimination positive sur un plan du travail scolaire, etc., avec des quotas comme aux États-Unis ou dans le travail, il y a eu une loi qui a été une loi de pourcentage de logements sociaux dans les villes, qui a été établie sous les gouvernements de gauche par un ministre communiste qui s'appelait Guessot, et donc qui a une loi qui porte son nom, avec un pourcentage qui est fixé dans les communes, et ce pourcentage est un minimum que l'on doit atteindre, et si on ne l'atteint pas, on a des amendes qui sont payées par les communes si elles n'atteignent pas ce quota. Alors, la question est une question là où qui est totalement différente de ce dont on a pu parler jusqu'ici. On a une intervention publique de l'État dans la manière, dans les lieux où on va habiter. C'est-à-dire que on va imposer à des gens des proximités, des choix d'emplacement suivant les catégories sociales. Alors c'est fait d'une manière qui peut être par exemple imposée dans des règlements communaux, où on va imposer à des promoteurs privés, une part de logements sociaux dans les opérations. Parce que ce qui n'est pas écrit dans la loi. La loi, c'est une loi globale, c'est-à-dire que c'est les communes sur leur territoire. Mais dans la pratique, on est allé plus loin. On peut le comprendre aussi, c'est la manière d'atteindre ce seuil, c'est-à-dire pour que la commune ne soit pas impactée avec les amendes dont je vous parlais, elle doit trouver les dispositifs. Et les communes n'ont pas toutes des sociétés municipales de construction, avec des sociétés d'économie mixte, etc., qui sont l'apanage des grandes communes. Donc, c'est un biais qui est d'arriver à préserver. Alors, on dira, c'est de la justice sociale. Alors, on peut s'interroger sur cela. Alors, surtout, c'est une chose dont on a parlé sur le logement. Les logements sociaux aujourd'hui, pour différentes raisons dont j'ai pu parler, mais que je vais rappeler aujourd'hui, sont devenus des logements semblables aux autres. C'est-à-dire qu'on a une unification de logements. Cette diversité que l'on a dans la vie, les choses sont diverses au niveau, prenons par exemple les automobiles. On a des automobiles petites, bon marché, économiques, et puis on a des modèles qui sont, on peut dire, par tranche de prix et qui peuvent atteindre des sommes tout à fait considérables. Donc il n'y a pas des voitures pour pauvres et des voitures pour riches. Il y a tout un panel de choix. Mais il en est de même dans le choix des vacances, dans les habits, dans un grand nombre de choses. Alors, la différence dans le logement était quelque chose qui était un marquage social très important, on peut dire, dans l'histoire. Et c'était un marquage qui était, on peut dire, une assignation définitive, dans la mesure où, justement, la mixité des classes sociales n'existait pas. On restait dans sa classe sociale, ouvrier, paysan, artisan, commerçant, noble, chef d'entreprise, propriétaire terrien, et les biens étaient transmissibles, les métiers étaient transmissibles, et on n'avait que quelques rares accidents de passage d'une classe sociale à une autre, mais c'était surtout dans le sens de la promotion, mais on peut dire qu'il y avait une grande étanchéité, et ce qui aujourd'hui, évidemment, n'existe pas, ou du moins pas d'une manière aussi systématique, et on peut dire que c'est heureux. Alors, justement, cette identification, cette distinction dont parlait Bourdieu et s'exerçait dans les lieux où on habitait, mais plus que les lieux, c'est-à-dire que c'était l'architecture qui déterminait le statut social entre les maisons du peuple et les maisons des gens très riches, jusqu'à ce qui fait partie de notre patrimoine, c'est les 40 000 châteaux que possède la France, et qui, on peut dire, il y en a à peu près un dans tous les villages de France, marqué d'un sceau architectural, justement, une classe dominante. Et cela se voyait d'une manière tout à fait claire dans l'architecture. Et aujourd'hui, cette chose-là n'existe plus d'une manière visible. Alors, ça existe maintenant dans l'endroit où l'on est. Donc, on va marquer une pause musicale et je vais reprendre ce propos. Et puis, je ferai une digression un peu toulousaine. En fin d'émission.
Duke's Place. So let's have a tremendous hand for Satchmo, Duke and the Boy.
Baby, take me down to Duke's Place. Spot in town is Duke's Place. Now that piano sound in Duke's Place Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Men get their licks and kicks in Duke's place. Take it, Duke!
Alors ce problème justement de la mixité dans le territoire, c'est-à-dire de mélanger les gens dans le territoire, effectivement ça ne marche que dans un sens, puisque les seules personnes que l'on peut déplacer, c'est les personnes pauvres, et on sait que par exemple la gauche parisienne voulait mettre 40% de logements sociaux à Paris, et parce que l'inverse est évidemment plus difficile à faire, c'est-à-dire de mettre dans les quartiers, on peut dire populaires, on sait très bien de quoi on parle des grands ensembles d'après-guerre ou de leur prolongement actuel, avec des populations dont la plupart sont aujourd'hui d'une origine d'immigration récente. L'immigration, on peut dire, des années 60, l'immigration de travail, elle est beaucoup plus répartie dans le corps social, donc il s'agit d'une immigration sociale, et effectivement, il n'y a pas moyen, même si on met des logements, on peut dire, luxueux, de faire venir les gens dans ce quartier. Donc la seule chose pour établir cette disposition morale de mixité, c'est de faire l'inverse. Et là, on peut se poser une question. Je rappelais tout à l'heure l'origine de cette loi Guesso, qui, à mon avis, est une loi liberticide, puisque il s'agit d'imposer à des personnes la place où vous êtes logé et quels vont être vos voisins. Donc ça, c'est quand même le propre des régimes totalitaires. C'est quelque chose qui n'est jamais dit. Mais normalement, d'une manière du droit de la Constitution et de la liberté, on a fondamentalement une liberté d'habiter où l'on veut, et en fonction de ce que l'on dispose, enfin, c'est le choix de chacun, et on ne peut pas, on ne devrait pas pouvoir l'imposer. Donc, cet aspect que je pense être liberticide est tellement dans les habitudes que personne n'en parle. Alors, on me dira, oui, mais c'est une bonne mesure, dans la mesure où ça a des résultats justement sur la mixité. La mixité, c'est moral. Bon, et on tourne en rond. Il y a quand même un problème qui est un problème fondamental, et qui est ce problème de la liberté. On a la liberté d'aller et venir, on a la liberté dans son propre pays, ou je sais pas, d'aller en vacances où l'on veut, on a la liberté de se marier avec qui l'on veut, et là, il y a un véritable pouvoir de l'État qui est assez ambigu et qui devrait être posé en tant que tel. Alors, il est question que il n'est pas question de dire que on doit laisser les gens pauvres dans un habitat insalubre, etc. Alors là, l'intervention de l'État pour que les logements soient de qualité et que tout le monde ait, on peut dire que les enfants ont des qualités de chance de ne pas être dans des logements surpeuplés, ceux qui étaient aussi porteurs de maladies, le logement insalubre, etc. Là, évidemment, tout le monde doit être d'accord sur cela. Donc, c'est le rôle de l'État. Mais le rôle de l'État doit-il aller au-delà justement de une mixité forcée et qui ne me paraît pas tellement compatible avec une démocratie. Voilà, donc c'était ma réflexion sur la mixité dans le logement. Je vous demande de réfléchir à ce que je suis en train de vous dire sur cette liberté. C'est quelque chose dont personne ne parle. Alors, ensuite, je voudrais parler d'une actualité récente et pendant les élections municipales, le candidat de la gauche là, qui est en deuxième position, M. Piquebal, a dit ce matin sur les réseaux qu'il demandait des propositions pour rafraîchir la ville de Toulouse. Alors, il propose de mettre une forêt à l'hippodrome. Bon, sur un plan du rafraîchissement, que ce soit un hippodrome où on supprime les chevaux et on met un parc accessible à tout le monde, c'est un changement de distribution, mais ça n'a aucun impact sur le rafraîchissement. On peut dire que l'hippodrome étant un espace vert non construit, et l'on sait que si on construit, on y circule, on aura forcément un réchauffement des moteurs, un réchauffement des habitats. Alors, je vais faire un petit rappel de principe sur certaines naïvetés par rapport à cela. Donc, il n'est pas question de parler du problème de climat d'une manière générale. On sait que de toute façon, la surface des villes fait que l'influence sur le climat global du globe, en tout cas des villes françaises, évidemment, totalement inexistant. Donc il s'agit du confort, et c'est une chose tout à fait légitime dont on peut parler, du confort des habitants dans les villes et de la chaleur dans les villes. Donc, il y a une chose de totalement sûre, c'est que les villes sont plus chaudes que les campagnes. On voit ça, toutes les voitures aujourd'hui sont équipées de thermomètres, et on voit bien en roulant, quand vous arrivez, alors non seulement bien avant que l'on soit dans une zone dense, mais déjà dans une couronne urbaine urbanisée, quand on arrive de Toulouse par les accès des routes extérieures, on voit la température qui peut monter en été de 2 degrés à 3 degrés, avec aussi une difficulté de refroidissement la nuit. Mais là, je crois que c'est assez compréhensible pour tous, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de la chaleur dans les matériaux, et une ville est forcément beaucoup plus dense en matériaux que la campagne qui a que la terre et n'a pas la densité du bâti. Mais le problème essentiel, me semble-t-il, et c'est quelque chose que l'on oublie, c'est que les villes ne sont pas chaudes par elles-mêmes, elles sont chaudes par les activités. Et ce n'est pas le phénomène dont je parle, des échanges entre la nuit et le jour. Quelque part, c'est un échange. C'est-à-dire que la chaleur qui est conservée la nuit fera que le matin, quand ça se réchauffe plus lentement, il fera frais dans les maisons et il fera plus chaud dans les campagnes. Donc, c'est un échange. Donc, on est à somme nulle. Mais dans le cas des villes, ce sont les activités. On parle par exemple que le béton réchauffe, mais non, le béton ne réchauffe pas plus que la pierre et pas plus que la brique. Ça accumule la chaleur, mais comme je vous disais, ça fait des échanges de chaleur, mais ça ne bouge pas. Par contre, ce qui est important, ce sont les activités humaines. Alors les activités humaines, c'est surtout les activités humaines, on peut dire récentes, depuis qu'il y a des machines. Et on peut dire que la ville ancienne, on peut dire pré-industrielle, ben, il n'y avait rien qui chauffait. On chauffait très faiblement les maisons. C'était des feux, mais les activités industrielles, c'était assez marginal. Aujourd'hui, ce qui chauffe, ce sont les moteurs. Alors les moteurs de toutes sortes. Alors ça peut être les petits moteurs électriques qui sont tout autour de nous, les appareils ménagers, domestiques, ordinateurs, etc. Mais bien sûr, les véhicules, que ce soit les bus, les voitures, et ce ne sont pas que les voitures à explosion, c'est tous les moteurs. Et les voitures électriques chauffent aussi les pneus, les freins. Donc il y a tout un ensemble de choses qui bougent, qui va chauffer. Mais ce qui réchauffe le plus, et là c'est un phénomène qui n'est pas celui de la révolution industrielle, mais beaucoup plus récent, et qui date, on peut dire, de l'après-guerre, même bien après. Et c'est surtout qui s'est développé sur ces dernières décennies, c'est celui de la climatisation. Parce que la climatisation va donner une température en plein été bien plus basse que la température extérieure. C'est-à-dire, s'il fait 35 à l'extérieur, il fera 18, 19, 20 dans les espaces climatisés. Et les espaces climatisés, ils sont de toutes sortes. Alors, il y a, bien évidemment, l'habitat. Et il faut tenir compte aussi que dans l'habitat, il y a les réfrigérateurs. Et puis, il y a les lieux de travail, les bureaux qui sont climatisés. Et puis aussi, il y a tous les bâtiments de commerce qui sont climatisés. Et aussi, d'une manière très importante, c'est ce que l'on ne voit pas, l'industrie frigorifique qui conserve les aliments. Si on a des pommes actuellement et les pommiers ne produisent pas, c'est que les pommes sont dans des grands entrepôts frigorifiques. Et quand on vous dit il faut manger les légumes de saison, les légumes de saison, ils sont de la saison des grands entrepôts frigorifiques. Et tout cela, c'est en permanence de la chaleur, qui est l'équivalent du froid, c'était un équivalent de chaleur. Donc aujourd'hui, les villes, et les villes industrielles, les villes denses, ont une extraction de chaleur considérable. Mais les degrés que je vous disais quand on approche de Toulouse, si vous allez dans les vieux villages, vous n'avez pas de différence. Il n'y a pas de différence entre dedans et dehors. Et pourtant, les villages sont denses. Et pourtant, les briques sont épaisses, les murs sont lourds, le bâti est dense. Donc ce n'est pas le bâti qui est dense qui crée la chaleur, mais uniquement les machines qui sont dedans. Donc, si vous êtes en pleine chaleur dans la campagne, eh bien, vous allez aller dans un petit village où on n'a pas justement tous ces commerces avec ces machines qui font du froid. Eh bien, le village, on aura des petites cours fraîches, la place centrale, même si elle est totalement minérale, sera fraîche, et on n'a pas besoin de végétaliser. Donc, tout le problème qui se pose dans les nouveaux quartiers n'est pas non plus le problème de la végétalisation, parce que il faut rappeler un phénomène fondamental, c'est que l'énergie est toujours constante et que si, par exemple, vous mettez des arbres, ben, il faut les arroser et l'eau en s'évaporant va faire baisser la température, mais la température au-dessus des arbres, elle sera par l'évaporation de la vapeur, elle va faire une différence entre le sol et la vapeur en partie haute, c'est-à-dire que la température globale de la ville, alors évidemment, elle sera plus confortable au niveau du sol, mais si on fait des immeubles de 15 étages, eh bien, les parties hautes, ils auront plus de chaleur, justement, par l'évaporation du sol. Alors ça, ce sont des phénomènes physiques contre lesquels il n'y a absolument rien à faire. Et c'est comme quand on met un brumisateur. Ben, le brumisateur, effectivement, il vous donne pas uniquement une sensation de frais, il y a une vraie fraîcheur, c'est-à-dire que l'évaporation, phénomène physique, fait baisser la température, mais de ce fait, en devenant vapeur d'eau, produit le différentiel de température. Alors voilà, donc le problème pour la réponse à Monsieur Pigman, je crois que la réponse, je l'ai donnée, c'est... on ne peut pas supprimer les climatisations. Et puis alors, la réponse, c'est peut-être de celle d'Alphonse Allais, de bâtir les villes à la campagne parce que l'air est bien plus pur. C'est-à-dire que si on veut avoir de l'air frais, on peut habiter dans la campagne, mais c'est que les villes aujourd'hui, elles sont, je crois, condamnées à être plus chaudes. Et donc il faut s'en accommoder avec les bénéfices du progrès moderne, mais sachant qu'on ne peut pas renverser les lois de la physique. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie Sacha qui est toujours fidèle à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine.